Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 20 avril 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a présenté ses condoléances suite au décès du commandant adjoint de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. Environ 200 terroristes tués dans des bombardements russes en Syrie. La Libye et l'Algérie discutent de la coopération bilatérale en matière de sécurité. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. C'est avec grand regret que j'ai reçu la nouvelle de la disparition du glorieux général Sayyid Mohammad Hejazi. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Sa vie est caractérisée entièrement par des efforts dévoués, une pensée dynamique, un cœur plein de vraie foi et rempli de motivation et de forte détermination. Une force au service de l'islam et de la révolution est un résumé de la personnalité de ce Mujahid sur le chemin de Dieu, a précisé l'honorable Ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, dans son message de condoléances à l'occasion du décès du commandant adjoint de la force Quds du corps des gardien de la révolution islamique, le général Sayyid Mohammad Hejazi. Et toujours dans de ce message, nous lisons « Il a exercé de grandes et influentes responsabilités au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, a été glorieux et couronné de succès dans chacune de ses responsabilités. Sa disparition est vraiment une source de regret et de chagrin. J'estime nécessaire de présenter mes sincères condoléances à sa chère épouse et à ses enfants et aux autres membres de sa famille ainsi qu'à ses amis et collègues et à demander pour eux auprès de Dieu de Tout-Puissant de la patience et de la consolation. Que de Dieu accorde sa miséricorde de son appel de solution et son paradis à ce défunt frère. A conclu le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Le secrétaire général du Hezbollah de Libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a adressé de ses condoléances au guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, pour le décès du général Mohammad Ejazi, commandant adjoint de la force Quds. En mon nom et celui de mes frères et sœurs du Hezbollah, je présente à votre éminence mes plus vives condoléances et sympathies pour la perte du grand dirigeant et du cher frère Seyed Mohammad Ejazi, écrit le secrétaire général du Hezbollah libanais dans son message. Et il déplore sa perte soudaine au moment où le front de la résistance avait besoin de sa présence bénie. Nous le connaissons en sa présence parmi nous et à nos côtés depuis de longues années, étant un dirigeant sage, courageux et engagé dans le chemin d'Allah, ajoute-t-il et de souligner. Il était un grand frère, un fervent supporteur, un fidèle sacrifiant, un modèle de morale avec une pensée éclairante, une expérience pionnière. Il a également été un compagnon, un ami, un partisan et un fidèle du grand martyr Hajj Rasem Soleimani, en particulier au cours des dernières années qui ont été difficiles et fatales pour nos peuples, notre région et notre résistance. Nous adressons également nos condoléances à vos fidèles soldats du commandement du corps des gardiens de la Révolution, à la force Al-Quds et à son honorable famille, affirme dans son beau message le secrétaire général du Hezbollah libanais. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a rencontré le président indonésien Joko Widodo. Les deux hommes ont discuté des moyens d'élargir la coopération bilatérale avant de se pencher sur les questions internationales. Le chef de la diplomatie iranienne s'est dit également satisfait de l'accord entre les deux parties pour utiliser le potentiel de la Commission économique mixte et faire recours à d'autres initiatives en faveur du renforcement des relations économiques bilatérales. Pour sa part, le président indonésien a souligné l'importance des relations entre les deux pays. Évoquant le potentiel important des relations économiques entre les deux pays, le président indonésien a mis l'accent sur la poursuite des consultations auprès des deux parties, manière de réaliser cette capacité avant de saluer l'augmentation des relations commerciales et bilatérales. Environ 200 terroristes s'est tués dans des bombardements russes. Moscou a indiqué que deux bases situées au nord-est de Palmyre, abritant environ 200 terroristes, ont été détruites par l'armée russe. Le communiqué ne précise pas de quel groupe terroriste il est question, ni de la date précise du bombardement. L'armée russe a annoncé lundi 19 avril avoir tué environ 200 terroristes en Syrie lors d'un bombardement aérien sur une base abritant des terroristes au nord-est de la ville de Palmyre. Après confirmation par plusieurs sources de la localisation des cibles terroristes, les forces aériennes russes ont effectué plusieurs frappes à la suite desquelles deux abris ont été détruits. Environ 200 terroristes ont été tués, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. La Libye et l'Algérie discutent de la coopération bilatérale en matière de sécurité. Le Premier ministre libyen Abdulhamid Debaïba a rencontré le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum à Tripoli pour discuter notamment de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité. La réunion qui s'est tenue au bureau du Premier ministre a porté sur le renforcement de la coordination et des consultations politiques et sur diverses questions d'intérêt commun, indique un communiqué publié par le bureau d'information du Premier ministre libyen. Les deux parties se sont convenues de poursuivre la coordination et les consultations sur la lutte contre les menaces à la sécurité dans la région, telles que le terrorisme, les crimes organisés internationaux, le trafic de drogue, le commerce commerce des armes et l'immigration illégale, précise le communiqué. Un conseiller du président algérien affirme que la France a répandu de l'analphabétisme. La France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a propagé de l'analphabétisme en Algérie, a affirmé le conseiller pour les questions mémoriales du président algérien Abdelmadjid Tebboune, selon des propos rapportés par plusieurs quotidiens locaux. La France coloniale a œuvré pour répandre l'analphabétisme en Algérie, a accusé Abdelmadjid Tebboune, directeur des archives nationales, et alter ego algérien de l'historien français Benjamin Estorade, auteur d'un rapport en vue d'une réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie. Le vaccin russe Sputnik V est efficace à 97,6% selon une nouvelle étude. Le concepteur du Sputnik V estime que ce vaccin contre le coronavirus est efficace à 97,6% après avoir analysé les résultats de l'immunisation de près de 4 millions de personnes. L'efficacité du vaccin russe anti-Covid et Sputnik V atteint de 97,6%, a annoncé le Centre d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleya, concepteur du produit, en se référant à une analyse des résultats obtenus en quelques mois de la campagne nationale de vaccination. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. On va vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Les États-Unis doivent décider s'ils voulaient enfin de suivre ou non la politique ratée de Donald Trump, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, soulignant que Téhéran n'aura pas un nouvel accord aux côtés du plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, a déclaré les sanctions imposées par la précédente administration américaine à l'Iran visaient à rendre difficile le retour des États-Unis à ce pacte multilatéral. Saïd Khatibzadeh, brossant un tableau à l'occasion de son point de presse hebdomadaire lundi sur les dernières évolutions liées à la politique étrangère de la République islamique d'Iran au cours de la semaine dernière, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a rencontré la semaine dernière le conseiller à la sécurité nationale d'Irak. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu mardi à Téhéran et a été reçu par son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, une rencontre qui a conduit à la signature d'un mémorandum de coopération culturelle entre les deux pays. Sergei Lavrov a également été reçu par le président iranien Hassan Rouhani. Évoquant la poursuite des pourparlers à Vienne, il a déclaré « Jeudi a été le début d'un nouveau cycle de la commission mixte du plan global d'action conjoint à Vienne qui s'est poursuivi toujours à Vienne. » Interrogé toujours sur les négociations de Vienne, il a affirmé que les discussions en cours sur l'accord nucléaire de 2015 sont difficiles et n'ont pas encore abouti à une conclusion définitive.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Ratibzadeh, a déclaré que la politique de l'Iran était claire à propos de la levée de toutes les sanctions anti-Téhéran. Il a déclaré que les pourparlers Bevisab montraient au principal contrevenant à l'accord nucléaire, à savoir les États-Unis, comment revenir au plan global d'action conjoint sur l'aide nucléaire de 2015. Les États-Unis doivent décider, a-t-il insisté, s'ils voulaient enfin suivre ou non la politique ratée de Donald Trump et de s'ils veulent enfin revenir à leurs engagements liés à ce pacte multilatéral. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également déploré l'inaction des signataires européens, affirmant qu'ils étaient complices des États-Unis en violant les droits légitimes de l'Iran définis dans l'accord international dit plan global d'action conjoint. S'agissant des informations évoquées par les médias sur le dialogue entre l'Iran et l'Arabie saoudite, le porte-parole de la diplomatie iranienne a indiqué qu'il y a des citations parfois contradictoires à cet égard dans les médias. L'Iran se félicite de pourparler avec l'Arabie saoudite et considère cette question dans l'intérêt du peuple des deux pays et en faveur de la paix et de la stabilité régionale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait évoquer cette visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Mardi à Téhéran, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a rencontré tout d'abord son homologue iranien Mohammad Javad Zarif et ensuite il a été reçu toujours à Téhéran par le président iranien Hassan Rouhani. Sergueï Lavrov était venu à Téhéran pour s'entretenir avec les autorités iraniennes des questions d'intérêt commun, de la coopération bilatérale, du plan d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, et des évolutions régionales, très particulièrement en ce qui concerne la Syrie et de l'Afghanistan, également des évolutions internationales. Et cette visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères est intervenue à un moment où l'Iran a signé tout récemment un plan de coopération de 25 ans avec la Chine. Et à Téhéran, Sergueï Lavrov a dénoncé les sanctions européenne contre l'Iran. À Téhéran également, Sergueï Lavrov a dénoncé une fois de plus les sanctions injustes imposées par les États-Unis contre l'Iran. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou, un analyste politique et spécialiste des questions internationales, Monsieur Fabrice Beurre. Monsieur Beurre, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre antenne.
C'est un plaisir partagé. J'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Eliatem. Maître Atem, bonjour, merci et beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour également à M. Beurre et merci de votre invitation.
Je vous en prie, Maître Atem, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Comme première question, quelle est en fait la portée, l'importance de cette visite à Téhéran et du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov?
Cette visite renforce l'axe, je dirais, entre la Russie, l'Iran, la Chine. Il faut dire, comme je l'ai toujours répété et dit, il s'agit de l'axe du nouveau monde libre qui s'oppose au monde hégémonique qui est téléguidé par les États-Unis ou monopolisé, je dirais, par les États-Unis. Parce que quand on parle de de l'Union européenne et des sanctions qui ont été prises, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, par l'Union européenne, il s'agit en fait des pions qui sont à la solde des États-Unis et qui essayent d'avoir une majorité au sein de cette institution pour reprendre, si vous voulez, toutes les décisions prises par les États-Unis. Donc, revenant à votre question, cette visite, elle met en exergue ce nouvel axe, ou cette nouvelle, je dirais, bipolarisation qui se dessine de plus en plus dans le monde, et comme je l'ai toujours répété, avec ces deux mondes, le monde libre, le nouveau monde libre d'une part, et le monde hégémonique de l'autre part. Ce monde hégémonique qui édicte des sanctions, qui distribue des sanctions à des États ou des entités qui, juridiquement, ne doivent pas recevoir ces sanctions, et il laisse totalement libre tous ceux qui constituent ou qui créent un déséquilibre, une déstabilisation au niveau régional, au niveau international, et qui font des actes qui sont juridiquement, internationalement illicites, qui, par conséquent, sont éligibles à ces sanctions. Et je pense, par exemple, à la Turquie. La Turquie qui, comme tout le monde le sait, est le principal allié des États-Unis au sein de l'OTAN, la Turquie qui a menacé la sécurité dans l'est de la Méditerranée, mais également dans ses interventions en Libye, et malgré tout, les États-Unis sont passés outre, n'ont jamais réagi à ces exactions turques. Mais en revanche, ils distribuent des sanctions contre tous les autres États, contre tous les autres pays qui ne sont pas dans sa lignée politique, ce qui démontre qu'il y a une hégémonie américaine sur le monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Russie et le président Poutine, qui a envoyé donc son ministre d'Affaires étrangères, se lancent de nouveau dans cette création de ce nouveau monde libre, qui celui qui veut défendre l'indépendance et la souveraineté des États.
Monsieur Burke, de votre analyse, s'il vous plaît, d'autant plus que, comme je viens de le dire tout à l'heure, Maître Atem également vient d'y faire allusion, à Téhéran, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dénoncé les sanctions européennes qui pourraient saper ces discussions en cours à Vienne entre l'Iran et le groupe 5 plus. Sergei Lavrov a fait cette déclaration à Téhéran à un moment où l'Iran est passé à l'enrichissement de 60% pour réagir à cet acte qualifié de terrorisme nucléaire qui a visé le site d'installation nucléaire iranienne de Natanz, M. Burr.
Effectivement, on a plusieurs éléments aujourd'hui qui s'affichent. Alors, dans un premier temps, rappelons rapidement le dégagement américain du retrait américain de l'accord sur le nucléaire, sanctions imposées à votre pays, chantage fait à votre pays pour que, en fait, vous baissiez totalement les armes, votre défense, et on sait très bien ce qui se passe lorsqu'on se désarme. On voit bien tous les pays de la région ce qu'il en est devenu. Et nous avons les Européens qui, malgré, dans un premier temps, froncé les sourcils, se sont totalement alignés. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté pour qui connaît la réalité de la caste dirigeante au niveau européen et dans tous les pays qui lui sont affiliés. Et aujourd'hui, nous avons effectivement, avec la nouvelle administration Biden, une soi-disant volonté de retourner aux négociations, mais avec en fait la même argumentation, à savoir on va renégocier un accord, et donc vous devez également accepter nos conditions. Les sanctions imposées par la présente administration n'ont pas été levées, et aujourd'hui on voit effectivement, il faut les appeler pour ce qu'ils sont en réalité, excusez-moi cette trivialité, mais les toutous américains, européens des Américains, aujourd'hui, disent qu'ils sont pourtant les garants de cet accord, valident des sanctions contre votre pays. Ce n'est pas évidemment une volonté de dialogue, mais bien un alignement total sur Washington, et d'ailleurs, en particulier la France, avec la nouvelle administration s'est totalement réalignée, évidemment, sur les États-Unis avec par rapport aux petites frictions qu'il pouvait y avoir auparavant, mais c'était un problème d'ego. Aujourd'hui, ils sont totalement réalignés, puisque Macron est évidemment a été placé ici par le parti américain. Et donc, aujourd'hui, on a effectivement cet Occident, pour conclure sur votre question, cet Occident qui donne, qui déclare vouloir négocier pour appliquer l'accord, mais qui en fait en est également sorti, on va dire, dans les faits, puisqu'il applique une politique américaine de pression et de sanctions, alors que le fautif, effectivement, dans l'histoire, c'est bien Washington et non pas l'Iran qui a appliqué au maximum qu'il pouvait le faire, on va dire, à moins d'être totalement naïf, l'accord dont il serait le seul, effectivement, à devoir avoir des obligations. Et la présence hier de Sergueï Lavrov, qui a rencontré donc le président du Parlement iranien, et au même moment, effectivement, où il y a eu cette attaque terroriste israélienne, une parmi les nombreuses, et la réaction donc iranienne, effectivement, la multiple réaction iranienne, d'ailleurs dans différents domaines, démontre effectivement que nous avons bien ce bloc eurasiatique aujourd'hui, chacun, malgré les, bien qu'il puisse y avoir des déclarations diplomatiques, des fois peut-être pas aussi franches, ou qui restent diplomatiques, puisqu'elles sont diplomatiques, on voit bien que sur le terrain et dans la confrontation géopolitique, nous avons un bloc eurasiatique, Pékin, Moscou, et évidemment Téhéran, et en particulier Moscou et Téhéran, sur lequel je pense qu'il y a un accord tacite dans beaucoup de domaines, Moscou ayant compris et Téhéran ayant compris effectivement le sérieux l'un de l'autre dans le cadre de leur coopération antiterroriste en Syrie. Donc on voit bien effectivement, comme cela a été indiqué précédemment, et je conclurai là-dessus, que nous avons bien deux camps, un camp occidental qui est hypocrite, qui impose ses sanctions, en fait ses ultimatums, ses blocus, et un camp qui en fait, eurasiatique, qui cherche, on va dire, des accords, simplement, on va dire, des accords normaux entre États souverains. Mais évidemment, le monde occidental ne peut vouloir des rapports d'égo à égo, puisqu'ils ont toujours eu l'habitude, évidemment, des rapports, on va dire, de soumission. Et l'Union européenne connaît bien cela, puisqu'elle se soumet totalement à Washington, en particulier dans le cadre de cet accord nucléaire.
Merci beaucoup, M. Beur. Vous l'avez dit, Sergueï Lavrov a rencontré également à Téhéran le président du Parlement iranien, M. Qalibaf. Merci infiniment de faire cette précision. Maître Atem, vous l'avez dit que voilà, nous assistons à l'émergence d'un nouveau monde libre dont l'objectif et la mission est de faire face à ce monde, si vous voulez, hégémonique. Peut-on interpréter dans ce sens, Maître Atem, la signature de ce récent accord de coopération de 25 ans entre l'Iran et la Chine, cette visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a insisté une fois de plus sur la nécessité de doper, de renforcer la coopération Téhéran-Moscou, et également cette fermeté et cette réaction ferme, M. Atem, de Téhéran à cet acte de sabotage qui a visé le site d'installation nucléaire de Natanz, un acte qui a été qualifié de terrorisme nucléaire, Maître Atem.
Effectivement, mais vous le savez, ce n'est pas le seul ou le premier acte terroriste que les États-Unis ou leur principal allié dans la région, Israël, commettent. Il ne faut pas oublier l'assassinat du général Soleimani. Il ne faut pas oublier non plus l'assassinat par ce qui a été dit éventuellement du scientifique Fakhrizadeh par également soit les services américains ou bien les services israéliens ou bien les deux. Il y a une série d'actes qui démontrent que ce sont les États-Unis qui commettent des actes internationalement illicites. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? On voit un Iran qui est lui-même un État, qui est lui-même victime de ces exactions,
de ces actes qui sont internationalement illicites et qui n'usent pas de son droit de riposte, malgré le silence des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies. Car tous ces actes-là se sont qualifiés d'actes d'agression auxquels les Nations Unies doivent prendre des mesures contre les auteurs. Or, il n'y a jamais eu ni d'investigation, ni de recherche donc des criminels, ni de condamnation des responsables, par conséquent, de ces actes-là. Et donc c'est pour ça que je parle d'une hégémonie. Et c'est pour ça que je pars de l'autre côté, toujours, je l'ai toujours dit depuis plusieurs années, en me référant notamment aux idées d'Alexandre Dugin, qui est l'un des gens, des philosophes politiques les plus proches et influents sur le président Poutine, en parlant de ce pont qui doit être fait entre le monde européen, ou ce qu'on appelle le vieux continent, et puis le nouveau monde donc, qui s'ouvre à l'Est, c'est-à-dire avec la Chine. Et j'ai toujours soutenu cette idée qu'il y a une émergence d'un axe qui est celui qui va aller de Moscou à Téhéran et puis à la Chine, qui tous les trois, ont pour objectif de rétablir le droit international et de faire respecter cette primauté du droit international sur l'arbitraire politique, et de ce fait contrecarrer l'autre axe qui fait des actes qui sont totalement illicites et qui violent le droit international public. Et cet axe du bien, c'est-à-dire l'axe sino-russo-iranien, a pour objectif de contrecarrer cette jungle, si vous voulez, et cette volonté de créer le chaos sur la scène internationale.
Monsieur Beurre, à un moment où à Téhéran, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dénonçait des sanctions européennes contre l'Iran et y voyait une tentative de saper de ces négociations en cours à Vienne entre l'Iran et le D4 plus 1. Et à un moment où Sergei Lavrov dénonçait les États-Unis sur toutes ces sanctions américaines contre l'Iran, un responsable de la Douma russe à Moscou a réclamé l'ouverture d'une enquête internationale. Pourquoi l'ouverture d'une enquête internationale ? Il a en fait précisé que si l'implication du régime israélien dans cet acte de terroriste contre le site d'installation nucléaire de Natanz se précise, il faut ouvrir une enquête internationale. Ça montre, M. Beurre, la volonté, si vous voulez, de Téhéran et de Moscou de ne pas en fait laisser les autres imposer leur politique. Ça montre également cette fermeté, cette volonté de Téhéran de vouloir faire valoir ses droits, très particulièrement dans le domaine nucléaire, M. Beurre, n'est-ce pas?
Bien évidemment, on assiste aujourd'hui à cette opposition, oui, en fait, entre ce monde occidental qui fait fi du droit, qui fait fi des accords signés, qui fait fi des engagements, et qui utilise pour cacher cela, effectivement, la morale, le moralisme, la moraline pour caché derrière un lexique de propagande son attitude effectivement impérialiste. Et donc nous avons aujourd'hui dans les pays, pour les États-Unis ils parlent de l'ancien monde, mais qui est en fait le monde normal, à savoir des États souverains qui veulent travailler dans l'établissement effectivement de la paix, mais avec des règles. Les règles, c'est le droit international, et dans le cas précis, lorsqu'il y a une attaque terroriste, sous-entendu, et bah, même pas sous-entendu, dans la presse israélienne, ça a été même applaudi, il faut une enquête internationale, puisqu'ils sont aussi prompts à vouloir une enquête internationale à la moindre provocation des terroristes en Syrie, donc ils ne peuvent être contre une enquête internationale qui concerne en plus des installations nucléaires. On est vraiment quand même à un niveau certain de dangerosité qui ne peut être, ne pas être prise en compte. Mais évidemment, on est aujourd'hui dans une opposition avec... et vous nous trouverez occidentaux hier sur cela. Ça passe à la trappe, on va dire. On ne va pas parler plus que cela. On ne va pas se dire, mais qui c'est qui a fait ça? On parle de cet acte terroriste et on passe évidemment à autre chose pour mieux noyer le poisson, comme on dit. Mais il est évident qu'aujourd'hui, d'un point de vue du droit, simplement de la légitimité, de la légalité, l'Iran, dans le cas précis, est un pays agressé depuis des années par des sanctions et un blocus américain qui est totalement illégal et soumis, on va dire, à l'avilissement et au manque de courage des Européens sur cette question. Et on voit bien avec cette reconfiguration géopolitique à laquelle nous assistons, où le monde se dirige de plus en plus vers l'Eurasie, en particulier vers l'Asie du Sud-Est, ce nouveau centre mondial, on voit bien évidemment qu'on essaye de retrouver un équilibre et que cet équilibre entre les puissances eurasiatiques, ce sont des accords entre États normaux, à savoir des accords qui respectent le droit, les engagements qui ont été signés. Mais ça, et pour conclure, c'est évidemment quelque chose que l'Occident ne peut vouloir accepter parce que ça sous-entendrait, je le répète encore, parler d'égal à égal, et dans leur logiciel, c'est impossible, puisqu'ils sont le camp du bien, évidemment. Ce sont les pays développés, on en rigole lorsqu'on verra les vrais chiffres dans quelques temps. Voilà la situation dans laquelle on est toujours dans ce basculement géopolitique où l'Occident, anciennement dominateur, aujourd'hui a bien du mal à faire perdurer celle-ci, mais continue dans ses vieilles méthodes à la suite, on va dire, des États-Unis, de blocus et de sanctions, puisque c'est aujourd'hui la seule politique qu'ils peuvent mener, puisque d'un point de vue militaire, le bloc eurasiatique, que ce soit Pékin, que ce soit Moscou, que ce soit Téhéran, ne sont pas des cibles si faciles, évidemment, à détruire. Donc nous sommes dans une situation où nous allons répéter en boucle, effectivement, ces provocations, ces sanctions, et je pense, et moi je l'ai toujours dit, qu'il faut construire des institutions alternatives aux ces institutions dites internationales qui sont en fait aux mains de l'Occident, afin, s'ils ne veulent pas vivre avec nous, eh ben, vivons sans eux d'une manière paisible et surtout en respectant des règles, afin que nos peuples puissent vivre tout simplement en harmonie et suivre leur propre chemin. C'est vraiment cette question de souveraineté des États et de la paix dans le monde dont il est question, mais qu'attendre de la part de l'Occident, dont, lorsqu'on regarde, l'OTAN et les États-Unis sont responsables de la plupart des guerres que nous avons, et en particulier au Proche-Orient. C'est bien ça dont il s'agit, c'est la paix ou la barbarie.
Maître Atem, une dernière question, nous avons deux minutes de devant. Nous, Maître Atem, peut-on dire que la réussite, cette visite en fait de Sergueï Lavrov en est la preuve, la réussite en fait envisage de compter sur l'Iran pour mener sa politique moyen-orientale et de faire face aux États-Unis?
Il faut dire, c'est que, à l'instar de l'Iran, la Russie est également victime de cette hégémonie américaine. Les sanctions qui sont prises à l'encontre de la Russie ne sont pas justifiées par des actes illicitement, internationalement, illicites. Et la même chose en ce qui concerne l'Iran. C'est-à-dire, ces deux grandes puissances sont victimes, si vous voulez, de nouveaux actes d'agression qui sont les actes d'agression, si vous voulez, qualifiés comme des actes de guerre. Il y a une guerre qui se fait d'un côté et non pas de l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de riposte de la part des victimes, autrement dit de la Russie ou bien de l'Iran, à l'encontre des États-Unis. Troisièmement, en ce qui concerne la Chine, il y a une autre guerre que les États-Unis ont entamée à l'encontre donc, de cette grande puissance. C'est une guerre économique. Cette guerre économique, on la voit donc sur le terrain, qui de temps en temps se déclenche avec des interdictions de certains produits. D'où l'importance de ce renforcement, de ce nouvel axe qui s'oppose à l'axe du mal qui est prôné par les États-Unis. Yes. Et dernièrement, ça prouve qu'il y a une prise de conscience de la part de ces trois nouvelles puissances qui ont émergé depuis la fin de la bipolarisation en vue de reconstruire un monde de paix,
merci,
de prospérité et de respect de la souveraineté.
Maître Eliatem, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission et depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Fabrice Eber, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Ici, le Moyen-Orient.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Déclarant que la sécurité nationale de l'Iran dépend du maintien de son intégrité territoriale, le président iranien Hassan Rouhani a souligné aujourd'hui avec l'expérience de la guerre imposée 1980-1988 et de l'héritage de la période de la défense sacrée, les institutions militaires iraniennes, l'armée et le corps des gardiens de la révolution islamique connaissent leur mission et leurs responsabilités plus professionnellement que jamais. Le président iranien a déclaré dans son message à l'occasion du 18 avril, journée nationale de l'armée, « Chaque nation est fière de sa puissante armée et de chaque armée est fière de sa grande nation. Les nations restent sans défense et sans armée, et les armées sont sans défense, sans peuple, et des gouvernements sans ces deux facteurs restent sans capitaux avec ces deux éléments deviennent tous ensemble une barrière infranchissable. Sans aucun doute, la légitimité des armées réside dans leur patriotisme et leur loyauté à la sécurité nationale et à l'ordre, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Mais la relation des armées avec les nations est plus stratégique que la relation des armées avec le gouvernement. Les gouvernements ont besoin des nations pour rester au pouvoir, mais lorsqu'une nation n'est satisfaite d'un gouvernement et se détourne, ce sont les armées qui doivent choisir entre les nations et les gouvernements. Les armées possèdent des armes, mais leurs armes visent les ennemis des nations, pas les nations. Les armées font bien sûr partie administrativement des gouvernements et doivent donc obéir au gouvernement par la loi. C'est un principe démocratique que le soldat obéit au commandant. Mais il est également clair que les armées doivent soutenir un gouvernement qui n'a pas trahi son peuple, a souligné encore le président iranien Hassan Rouhani. Il y a 43 ans, lorsque la nation iranienne s'est détournée de la monarchie et a fait une révolution contre la dictature, le régime Pahlavi s'est tourné vers l'armée dans une illusion pour sa survie et lui a demandé un coup d'État contre la révolution et en fait contre la nation. Mais l'armée a fait son choix final et s'est rangée du côté de la nation, car l'armée fait finalement partie de la mère
illimitée de la nation. Et c'est la différence entre l'armée iranienne et les autres armées dans la région, a conclu le président Rouhani. L'ambassadeur permanent d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne a déclaré que les États-Unis devaient présenter une liste des mesures qu'ils prendraient pour lever les sanctions contre l'Iran afin de prouver son sérieux dans les négociations en cours sur l'accord nucléaire de 2015 à Vienne. Ce qui est recherché et débattu à Vienne, c'est la présentation d'une image claire et transparente concernant la suppression des sanctions, a déclaré de Kazem Ghalibabadi aux journalistes. Il est nécessaire d'identifier et d'énumérer les étapes de la levée des sanctions afin d'examiner le sérieux de Washington dans sa déclaration de volonté de revenir et d'honorer pleinement le plan global d'action conjoint et de vérifier si cela correspond à la politique déclarée, a-t-il souligné. Ghalibabadi, un négociateur actuellement engagé dans les pourparlers multilatéraux à Vienne, a déclaré que les négociateurs iraniens agissaient conformément aux principes de la République islamique énoncés par le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Et les pourparlers ont commencé au début du mois et incluent les autres parties au plan global d'action conjoint, à savoir l'Iran, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, tout en excluant les États-Unis qui ont unilatéralement quitté l'accord il y a 3 ans pour se donner une image de manœuvre et envie de se livrer à des cycles sans précédent des sanctions contre l'Iran. L'Iran a répondu à la campagne de pression maximale des États-Unis en prenant des mesures de plus en plus fortes pour faire progresser son programme nucléaire, dont le dernier était l'enrichissement de l'uranium à 60% jusqu'à... Et l'Iran se dit déterminé à poursuivre cette politique jusqu'à la levée complète des sanctions injustes américaines. Un convoi des forces américaines chargé d'armes, de munitions, de matériel logistique, en plus d'un certain nombre de véhicules blindés, est entré depuis l'Irak et s'est dirigé vers des bases américaines dans la région d'Al-Shadadi, dans la campagne méridionale de Hassak, au nord-est de la Syrie. L'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté qu'un convoi de 24 camions est entré en territoire syrien par le passage illégal d'Al-Walid avant de prendre la route internationale vers Qamishli, puis les bases américaines d'Al-Shadadi sous la couverture d'un vol intense d'avions américains dans la région. Le mois dernier, la Sanar a déclaré que 4 avions, dont 2 hélicoptères des forces d'occupation américaines, avaient atterri sur la base d'occupation Al-Shadadi. Les sources ont souligné à l'époque que les hélicoptères transportaient un groupe de soldats de l'occupation et 20 caisses en bois contenant des missiles thermiques sur l'épaule utilisés contre des... Général israélien, le Dôme de fer a prouvé son échec contre les missiles de la résistance. Un général israélien a annoncé que le Dôme de fer s'est avéré inefficace et incapable de stopper les tirs de roquettes de la résistance palestinienne. Le général Yossi Longotsky a déclaré qu'il est interdit à Israël de s'appuyer uniquement sur un système de défense reposant sur la technologie des missiles intermédiaires percepteurs et de ceux pour pouvoir contrecarrer de manière efficace les menaces de missiles qui pourraient gravement nuire au front intérieur, aux installations vitales et à l'armée lors d'une future guerre. Dans son article paru dans le journal israélien Maariv, le commandant de l'unité 81 de la technologie de Lankotsky a expliqué que les éléments menaçant le front intérieur israélien proviennent du Hamas dans la bande de Gaza, du Hezbollah au Liban ainsi que de l'Iran en cas d'éclatement d'une guerre majeure. Cependant, le dôme de fer ne pourra apporter qu'une réponse partielle avec des failles et en quantité limitée aux missiles à court terme. Et d'ajouter, le coût de chaque missile tiré par le dôme de fer est supérieur à 100 000 dollars. Dans de nombreux cas, les missiles balistiques et de précision ennemis de moyenne et de longue portée ne peuvent pas être interceptés par ce système de défense anti-aérien. Parfois, deux missiles sont tirés pour intercepter une roquette palestinienne, ce qui nécessite de préparer un stock de suffisant de missiles anti-aériens avec la menace de tir de plusieurs missiles ennemis. Nous aurons besoin de dépenser plusieurs milliards de dollars. C'est ainsi que ce général israélien a avoué ouvertement l'incapacité de l'armée israélienne et du régime occupant israélien à faire face en fait aux missiles et aux roquettes lors d'une éventuelle future guerre. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.